Savez-vous mentir? Non, parce que ça paraît simple comme ça. On ment depuis l'âge de 3 ans, en moyenne 2 à 3 fois par jour. Puis on en voit hein, dans l'actualité, surtout en ce moment, des menteurs invétérés. Ça paraît simple de mentir, mais c'est un petit peu plus compliqué. D'abord parce qu'on ment pour toutes sortes de raisons, vous le savez. Pour se mettre en avant ou pour se dissimuler. Par amour ou par haine. Pour éviter une conséquence ou au contraire pour faire plaisir. Il arrive même que l'on mente pour son propre plaisir, c'est vous dire. Et c'est un art que de savoir mentir. Parce que mentir, c'est pas seulement ne pas dire la vérité, c'est aussi imaginer, assumer, embrasser une autre réalité, faire le pari de la fiction au risque de ne jamais en sortir. La folie du mensonge, c'est qu'elle exige de l'effort et de l'entraînement. On peut pas faire n'importe quoi quand on ment. Faut être crédible, rester cohérent, il faut paraître tout à fait honnête aux yeux de celui à qui l'on ment, ne pas baisser les yeux par exemple, ne pas changer de voix, ou se crisper, continuer à respirer, à avaler normalement. C'est compliqué de faire semblant. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on débusque un menteur, on peut pas s'empêcher un petit peu de l'admirer, pour son assurance, pour sa créativité, pour son intelligence à savoir nous berner. C'est compliqué.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, de son propre aveu, a fait du mensonge une profession. Il y a 2 ans, il faisait ses adieux à la chanson pour se consacrer à sa passion première, le théâtre. La semaine prochaine, on le retrouvera sur la scène du Théâtre de la Michaudière, à Paris, dans une pièce de Sacha Guitry. N'écoutez pas, mesdames, rebondissement en pagaille, adultère en veux-tu en voilà, bon mot à gogo. Bonjour Michel Sardou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, ça me fait plaisir.
Ce matin, tout d'abord, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on ment?
Je ne sais pas vraiment. Des fois, c'est pour se donner de l'importance. Des fois, c'est pour fuir quelque chose que l'on n'aime pas. Quelquefois, c'est pour ne pas avouer une faute qu'on a commise. Et dans mon métier, le mensonge, c'est pas vraiment du mensonge. Il y a un grand acteur anglais, Keane, qui disait, vous savez, être comédien, c'est pas difficile. Il faut faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant 4 heures.
Mais quel genre de menteur est-ce que vous êtes, vous, Michel? Compulsif, occasionnel, timide?
Bah, c'est mon métier. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Dans la vie, oui, je mens. Bon, oui. Peut-être pour paraître plus mieux que je suis. Ou alors, dans mon métier, c'est un mensonge qui est obligatoire, puisque bien sûr, vous n'êtes pas l'homme que vous jouez, mais en même temps, il faut être vous-même quand même. Donc c'est très compliqué.
Vous dites, je suis un menteur professionnel.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que ça veut dire, au juste, être un menteur professionnel?
Ça veut dire que vous jouez le soir, vous faites croire à un public, pour le distraire, vous êtes en train de vous exprimer sur un texte qui n'est pas à vous, qui ne vous appartient pas, et que vous devez intégrer et être en même temps vous-même, garder votre personnalité. Tout en rentrant dans la personnalité de l'autre, d'où le mensonge et la schizophrénie. Là.
Et quand vous regardez autour de vous, quand vous allumez la radio, la télévision ou même votre téléphone, où est-ce qu'il vous semble être le plus criant, le mensonge, dans une époque où on parle toujours de vérité?
Il y a mille choses. On va sauver la planète, tout le monde parle de la planète. Et puis en fait, on avance à reculons comme les crevettes. C'est on fait ce qu'on peut, mais bon, il faudrait que le monde entier s'y mette, pas que nous.
C'est intéressant parce que paradoxalement, j'ai l'impression à vous entendre que la vérité, on la trouverait dans les textes de théâtre, on la trouverait dans les chansons.
Mais bien sûr.
On la trouverait dans l'art en fait.
Mais bien sûr, l'art est plus sincère. Un homme, quel qu'il soit. Peintre, écrivain, romancier, ce que vous voulez, acteur, auteur dramatique, il met son âme dedans. Il raconte une part de lui qui n'est pas vraiment une part de lui, mais qui est le plus près de lui. Que ce soit Guitry, Anouilh, Sartre, qui vous voulez. C'est au plus près de lui, au plus près de ses idées, au plus près de ses engagements. Et là, je trouve ça plus sincère.
Quand est-ce que vous avez compris, vous, Michel Sardou, que ce qui vous faisait vibrer, c'était d'incarner des personnages, aussi bien d'ailleurs dans vos chansons qu'au théâtre?
C'est beaucoup plus intéressant. Dans une chanson, en fait, très souvent, les gens m'ont accusé de certaines choses à travers mes chansons, parce que j'emploie la première personne, je dis « je ». Alors, évidemment, comme je dis « je », les gens disent « c'est ce qu'ils pensent ». Ils s'imaginent pas une seconde qu'en disant « je », je vous demande pardon, qu'en disant je joue un personnage.
Vous voulez dire qu'il y a certains personnages que vous avez incarnés, même en chanson, que vous n'aimiez pas vraiment ?
Non, la chanson est venue, l'idée est venue, j'ai dit tiens, c'est intéressant de traiter de ça, et je l'ai joué. Mais en fait, c'est un petit sketch, une chanson, c'est un petit passage de... comme je suis au théâtre, c'est pas forcément ce que je pense, ce que pense Guitry ou un autre, mais je le joue et je le défends.
Vous voulez dire par là qu'il y aurait des malentendus, Michel Sardou ?
J'ai eu que ça. J'ai eu que ça. Depuis mes débuts, depuis très jeune d'ailleurs, c'est surprenant.
Mais... Oui, parce qu'à force de mentir, on arrive pour quelqu'un qu'on n'est pas, Michel. Mais alors, qui êtes-vous, au fond, Michel Sardou ? Vous sur qui on a dit et entendu tant de choses ? Vous qui avez dit tant de choses aussi qu'il est parfois difficile d'y voir clair. Vous avez fini par le savoir, qui vous êtes ?
Non. Non, non. Vous savez qui vous êtes, vous ? Eh oui, c'est ça le problème, parce que les gens vous disent toujours, alors qui êtes-vous vraiment, mon vieux ? Mais j'en sais rien, je vais où conduit la vie, ou quelle situation je me trouve, là je suis devant un micro face à vous, est-ce que je mens un peu ?
Et c'est ça.
Est-ce que je dis la vérité ? Beaucoup. Voilà.
Si ça se trouve, Michel, vous êtes un personnage. Dans la vie, est-ce que vous avez l'impression de jouer votre propre rôle, parfois ?
Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas, non. Dans la vie, je joue rien du tout. Je suis plutôt un solitaire dans la vie. Je suis plutôt un homme enfermé qui ne sait pas se mêler de...
Cela dit, il y a toujours un moment donné, quand on est si connu, il faut le dire, quand on a cette carrière, où votre nom vous dépasse, non ?
Oui, ça arrive.
Qu'est-ce qui est le plus agréable dans la vie quand on est Michel Sardou ?
C'est-à-dire que les gens sont gentils avec moi. Je dois dire que c'est très rare d'avoir une altercation avec quelqu'un. Les gens sont plutôt sympathiques quand je vais au marché ou quand je vais dans les rues ou quand je vais aux courses, que j'ai les chevaux de course. Les gens sont plutôt sympathiques.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus terrible à être Michel Sardou ?
Tiens, ma femme est là, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas ce qu'il y a de plus terrible.
C'est à vous que je pose la question.
Je me fais beaucoup de soucis pour mon métier. C'est-à-dire que je n'ai pas une grande confiance en moi. Là, je vous dis la vérité, je mens pas. Alors, j'ai l'air comme ça de rentrer.
Avec votre blouson en cuir, vous êtes effectivement assez impressionnant.
D'être complètement relax, de savoir bon truc. Non. Au fond, je suis très, très fragile. Très fragile au niveau professionnel. Très fragile.
Vous l'avez toujours assumé, cette fragilité ?
Oui, toujours. Et puis, donc je triche et je mens, puisque dans ce coup, j'arrive et on a l'impression que tout va très bien, que je suis complètement maître de mon métier, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Voilà.
Si vous sentez aimé du public, Michel Sardou, est-ce que vous vous aimez ? Tiens.
Pas tout le temps. Pas tout le temps.
Et qu'est-ce qui vous déplaît chez vous ?
Un tas de trucs. Je suis un peu chiant de temps en temps, mais comme pas plus que tout le monde. J'ai des réactions quelquefois brutales, mais pas méchantes. Je réponds. Des fois, je vais un peu trop vite dans mes jugements. Voilà. Et après, je me dis, mais je suis un con. J'ai pensé ça. Je me suis gouré. J'ai mal compris.
Dis donc, c'est la semaine. Alain Souchon nous disait lundi matin qu'on est tous des cons.
Mais oui, c'est vrai. Il a pas tort. Il a pas tort. On a tous chacun et le con de quelqu'un. C'est sûr.
Celle qui est un peu conne dans cette émission, on doit le dire. Je suppose que vous la connaissez. C'est La Culture et son émission nombriliste, vantarde et vaniteuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 4 septembre? Pitchfork Forever, ce matin en exclusivité dans Boomerang, on vous annonce en avant-première les noms qui sont à l'affiche de la 9e édition du Pitchwork Music Festival qui reprendra ses quartiers à la Villette le 31 octobre prochain. Sébastien, Charlotte Dos Santos, mais aussi le rappeur Skepta seront de la partie. Le public pourra aussi découvrir Kojak, la nouvelle sensation du rap irlandais, les Britanniques Bal et Sébastien, le duo Sons of Raphaël ou encore le génie de l'électropop Nelson Beer. Allez là!
Le projet est d'ampleur. La gare du Nord va tout simplement tripler de taille.
Dans une tribune parue hier sur le site du journal Le Monde, un collectif d'architectes français dont Jean Nouvel et Roland Castro estiment que le projet de transformation de la gare du Nord à Paris est, je cite, une grave erreur urbaine et patrimoniale. Le projet prévoit en effet de raser la verrière du pôle d'échange au bénéfice d'un parcours de passerelles surélevées, dont une passant par la façade nord imaginée par l'architecte Jacques Ignace Itorf en 1864. La mythique gare figure à l'inventaire des monuments historiques. barré comme jamais l'étrange festival, rendez-vous le plus flippant du 7e art, revient aujourd'hui au Forum des Images. Pour cette 25e édition, l'événement le plus barré de la rentrée prévoit 134 séances, dont la première française de Nectronic de Kiara Turner en ouverture et un montage chronologique du sulfureux irréversible de Gaspard Noé. L'événement prolongera la séance avec des cartes blanches, des focus ou encore deux soirées spéciales.
C'est un régal.
Les mercredis de non-vérité, toutes et tous au ciné, car aujourd'hui, dans les salles, on est invité à la fête de famille de Cédric Kahn pour un moment de joie et de névrose. On s'enflamme pour Liberté d'Albert Serra, en plein débat parmi les jouisseurs de la cour de Louis XVI. Et enfin, on s'envole avec Les Hirondelles de Kaboul, le film d'animation adapté du roman de Yasmine Akadra par Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mévelec. Ouais. Michel Sardou, invité de Boomerang ce matin, bientôt au théâtre de la Michaudière pour une pièce de Sacha Guitry. N'écoutez pas, mesdames, le théâtre, c'est un lieu que vous connaissez bien, Michel. Quel lieu est-ce que c'est d'ailleurs pour vous, la scène de théâtre, et même le théâtre en général?
Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour un artiste. C'est plus intéressant que la chanson, c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus dur, mais quand on a la chance que la pièce soit bien reçue, c'est un plaisir énorme.
Et puis c'est un lieu, le théâtre, que vous avez toujours connu. Quand vous alliez voir vos parents, qui étaient dans le métier, quand vous étiez petit, de quel côté est-ce que vous étiez? Côté public ou côté coulisses?
J'étais pas public, je crois pas.
Avec quel regard l'enfant que vous étiez regardait ce monde du théâtre? Avec suspicion?
Non,
ou déjà
non,
avec une
tout.
Forme de passion?
Donc, ne vous méprenez pas, j'ai pas subi l'influence de mes parents. J'allais les voir de temps en temps, mais j'étais en collège, en pension, donc je les voyais assez rarement. Je profitais des vacances quand ils étaient en tournée pour les rejoindre sur une tournée. Mais on ne parlait jamais de ça à la maison.
Alors quand est-ce que ça vous est venu, ce virus?
Non, parce que j'avais envie de jouer des rôles. J'ai commencé par parler dans des cours de comédie, savoir ce que c'est quand même la première chose à faire. Et la seule, c'est terrible ce qui m'est arrivé avec mon père, et je l'aime énormément, j'ai toujours aimé, ça n'a rien à voir, mais il a eu une réaction assez extraordinaire. Quand je lui ai dit que je voulais être acteur, comédien, il a ouvert la porte de la maison, il dit « Sors, reviens jamais, et faut que t'en vives. » Et il a refermé.
Waouh !
Bam ! Et ça, c'est la meilleure école du monde. Alors à l'époque, c'était l'époque bénie où les petits boulots était facilement accessible à des jeunes. Donc j'étais serveur le week-end à Joinville-le-Pont. et parallèlement à ça, je prenais des cours de comédie. Et j'écrivais aussi des chansons avec Michel Fugain. On avait monté une sorte de cercle de poètes disparus ou à venir. Je ne sais pas qui on peut dire. Et j'ai pris un plaisir énorme.
En l'occurrence, vous n'avez pas commencé par la chanson, je le disais. Vous avez choisi l'art dramatique. C'est comme ça que vous avez commencé. Pourquoi l'art dramatique plutôt que la chanson?
Bah, parce que d'abord, la chanson n'était pas ne m'est pas venue à l'idée. J'avais pas de voix. Ce qui peut paraître étonnant aujourd'hui parce que j'ai eu une très grande voix pendant longtemps. Enfin, très, très haute. Mais au début, je l'avais pas placé, j'avais pas travaillé ma voix, donc je chantais très moyennement.
Et puis vos modèles, c'était pas des chanteurs, c'était
non,
des comédiens.
Non, c'était pas des chanteurs, c'était des comédiens.
C'était qui?
Je pense à ça va de Gabin à Blier, en passant par Meurice, Charles Vanel.
Ça a été la galère, Michel Sardou, quand vous avez commencé en tant que comédien?
Non, pas vraiment. Je me démerdais pour trouver des petits boulots, pour avoir... C'était la vie de bohème, mais une vie de bohème qui n'était pas triste. Il n'y a pas eu de drame. Je vivais dans une chambre de bonne. Parce que j'étais déjà marié avec une femme qui, elle, me faisait vivre, en fait, parce qu'elle était danseuse au Lido, je ne sais plus où. Et elle me permettait d'aller au cours, etc. J'en serais toujours reconnaissant de ça. On vivait dans une chambre de bonne à Pigalle, au-dessus du Palais des Jeux. Bon, mais... Bon, c'était marrant.
Moi, je peux pas m'empêcher de penser à cette chanson qui s'appelle Le Figurant, sur votre dernier album. Vous en parlez à demi-mot, quand même, de ces années. Et c'était pas forcément une époque facile.
C'était pas facile, mais c'était pas dramatique. Vous connaissez un métier facile, vous, au début?
Enfin, pas le mien, en tout cas, je peux vous le dire. Avec des énergumènes, comme vous toutes et tous, j'en profite pour le dire.
Non, mais pour tout le monde, c'est pareil. Toutes les professions sont...
Et à quel moment c'est devenu beaucoup plus facile?
Ça l'est jamais devenu. Là, j'en chie, là. C'est très difficile à jouer, parce que c'est à la fois fluide et pointilleux.
N'empêche, la fluidité, vous l'avez trouvée avec la chanson, jeune.
Oui, je l'ai trouvé. Je ne sais pas comment c'est venu, parce que, pour vous dire la vérité, le premier disque que j'ai fait, c'était un accident, une opportunité, bon. Mais dans ma tête, c'était le dernier. Je n'avais pas l'intention de poursuivre, la chanson ne me tentait pas. Pourquoi, je suis incapable de vous le dire, mais j'étais plus vers le cinéma, le théâtre, etc. Et puis, le premier disque, j'en ai pas vendu, bon... J'ai dit, très bien, ça va s'arrêter là, on va pas en faire un drame, ça arrive à tout le monde de faire un disque et de pas en vendre. Bon. Après, j'en ai fait un deuxième, qui s'est pas vendu non plus. J'ai dit, bon, putain, ils s'obstinent, ils font chier.
Ah, c'est pas facile.
Troisième, quatrième, et puis, je me fais virer enfin de ma maison de disque, qui était Eddie Barclay, le pauvre. Et manque de peau pour lui, j'avais enregistré, malgré moi, parce que ça me plaisait pas du tout, parce que j'y croyais pas du tout, comme quoi on peut se gourer grave, j'avais enregistré La Maladie d'amour, Les Balles populaires, J'habite en France, et je ne sais pas, qu'on a fait des millions de disques, avec un disque, le jour où il m'a viré. Ah, bon, c'est comme ça. Et alors après, ayant vendu du disque, je me suis trouvé à faire des concerts. Donc, il a fallu que je travaille ma voix, et je suis tombé sur une femme extraordinaire, qui d'habitude entraîne les ténors et les chanteurs classiques et qui m'a donné une voix énorme que j'ai gardée pendant des années, que là je commence à perdre.
Des chansons, il y en a eu beaucoup et pas des moindres, alors juste pour le plaisir quand même, hein, parce qu'on est sur France Inter, quand on était petit garçon.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant.
La chanson des mariages, Michel.
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marine a dit oui.
Puis la chanson de ma maman, c'est pas faute de l'avoir dit qu'elle était bizarre, mais elle est quand même swingy, celle-là.
Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes.
Et puis la chanson de demande en mariage de mon oncle Louis.
À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer.
Et puis la fête quand même, Michel, la Java.
Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un menon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît.
Mais c'est marrant quand même, hein, Michel, parce que lorsque je reçois des artistes de votre génération, j'ai toujours l'impression qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par hasard, sans vraiment l'avoir choisi, sans vraiment l'avoir voulu.
Mais c'est vrai, c'est la vérité pour tous. Je connais pas un chanteur qui a débuté en se disant « je veux être une vedette ».
Mais en même temps, dans ce que vous dites, il y a le hasard, mais il n'y a pas que le hasard. Cette voix, par exemple, elle n'est pas tombée du ciel. Vous me dites que vous l'avez travaillée.
Ah oui, j'ai travaillé parce que là, je ne veux quand même pas faire les choses bien, puisque il faut quand même pas que j'ai l'air d'un nul.
Alors comment vous la travaillez ?
Alors c'est une femme qui m'a appris à placer la voix, à respirer, à savoir comment... Des petits trucs comme ça, mais... Quand on parle au public, il ne faut pas envoyer la voix vers le public. C'est une erreur que font tous les amateurs. Il faut l'envoyer derrière. Il faut l'entendre derrière sa tête. Voilà.
Et en même temps, elle porte cette voix. À quel moment est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle est portée, justement, qu'on vous ait entendu, qu'elle ait même peut-être un petit peu fait changer les choses, qu'elle ait fait un petit peu
bouger. Oui, les ricains.
Les ricains.
À partir du moment où j'ai été interdit par le général de Gaulle, j'ai sorti cette chanson le jour où de Gaulle... Le général de Gaulle sortait de l'OTAN et évacuait les bases américaines en France. Bon, comment pouvais-je le savoir ? J'étais pas intime avec le général de Gaulle. De Gaulle immédiatement envoyait des motards à Europe, à France Inter, à toutes les radios de l'époque.
Bah, c'était une autre époque quand même, faut le dire.
Il envoyait un motard qui a pris les disques et avec un papier comme quoi vous passez plus jamais cette chanson. Ce qui fait que les Français, comme d'habitude, curieux comme des singes, se sont précipités parce qu'ils ont dû dire il a dû dire des trucs terribles. Alors que franchement, quand on écoute la chanson, on peut pas vraiment m'attaquer sur quoi que ce soit.
Et si ça se trouve, c'était pas vous qui parliez, mais c'était un personnage.
Non,
puisque
je racontais parce que non. Là, pour une fois, c'est une exception. J'ai été très choqué à l'époque parce que c'était dans les années 69. C'était pleine guerre du Vietnam. Et je me balade à Paris et je vois le drapeau Viet Cong flotter sur la Sorbonne. Je dis quand même, merde, je veux bien qu'on soit contre la guerre au Vietnam, je comprends tout à fait ça. Mais quand même, la reconnaissance du ventre, merde, ils sont venus, ils sont morts sur une plage des dizaines de milliers. Donc ça m'avait choqué. Et en rentrant, j'écris ça. Mais sans penser une seconde que j'allais déclencher l'ouragan machin là, d'Orient, non. Et paf, De Gaulle me tombe sur la gueule, il est lourd, hein. Et eh bien, le fait que la chanson ait été interdite, ça a fait parler. Du coup, ça a fait un succès.
Qu'est-ce qui fait une bonne chanson pour vous, Michel Sardou ?
Oh, c'est les deux, c'est texte et musique. Il faut que la musique soit bonne, comme dirait Goldman. Ça, c'est...
Effectivement, il l'a dit, quand la musique est bonne.
Oui, ça, c'est important. Mais je crois que ce qu'on raconte aussi est important. Je pense aux chansons d'Aznavour, aux chansons de Ferrat, aux chansons de Brassens, aux chansons de tant d'autres, de Reggiani... Il y avait quand même on racontait une histoire, on racontait une pièce, on racontait un bout de vie. Bon, Lac du Codebara, on aime ou on n'aime pas, mais c'est rentré dans les mœurs.
Ah bah ça, c'est sûr qu'il y a certaines de vos chansons, il nous en reste, hein, des mots. Et pour moi, les plus belles chansons, comme sont des chansons d'amour, évidemment, parmi toutes celles que vous avez chantées, il y en a une qui nous colle à la peau. Je suis pas le seul. C'est La Maladie d'amour. Vous en parliez en 1973 sur l'album du même nom. Vous êtes sur France Inter avec Michel Sardou. Vous écoutez Boumang.
C'est
va
rare
bien.
Que je passe en chanson sur France Inter.
elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire que si c'est un ours, c'est petit ours brun, parce que sous son air un poil dubitatif et méfiant, on s'en pointe quand même un cœur de loukoum, prêt à fondre à la moindre occasion. Il a le cheveu gris et foisonnant, il a l'œil bougon m'étendre derrière ses lunettes noires. Je ne peux le deviner, moi.
Non, merci, il est tôt ce matin, je sais pas. J'ai les yeux bouffis, on dirait une grenouille.
Il a la lèvre tantôt pincée, tantôt déployée. Il a tout de l'oncle dévoué, vous savez, qui râle pour le principe, mais qui est toujours le premier à rendre service, comme par exemple quand on lui passe La Maladie d'amour.
Ah, je peux plus Michel supporter ça. Hier, j'ai jamais aimé. Je vais vous faire un aveu. On a mis 2 ans à l'écrire. Parce qu'à chaque fois qu'on mettait un mot sur les notes, ça alourdissait la mélodie et ça lui faisait perdre son charme, la couleur que vous passez là maintenant que je ne supporte plus. Mais bon, il faut bien que je l'accepte. Mais on a mis 2 ans à écrire cette chanson.
Vous voulez dire qu'une mélodie, elle peut être gâchée, en fait?
Oui, si vous mettez le mauvais texte, la mauvaise rime, le mauvais mot, ça alourdit la note. C'est pour ça que moi, je préfère faire mes textes avant. Ça, je suis peinard. Après, je peux corriger. S'il y a un pied de plus, 3, 6, ou 6, 7, 6.
Mais Michel, quand vous entendez vos chansons à la radio sur France Inter, par exemple.
Rarement. Ou alors... Ils étaient très de gauche à l'époque.
Ils ne le sont plus, je vous rassure, puisqu'on est dans le mensonge depuis le début de cette émission.
J'étais très de droite, soi-disant, donc ils ne passaient pas du tout.
Pourquoi, soi-disant, vous n'étiez pas de droite, en fait?
Ah, je suis complètement de droite. Ah, bon. Mais pas au point où on me mettait à droite.
D'accord.
Pas à cette droite-là, quoi, tu vois.
Je vous reçois ce matin, Michel Sardou, pour cette pièce de théâtre N'écoutez pas Mesdames de Guitry au théâtre de la Michaudière dès jeudi prochain. C'est un classique. Du boulevard, chassé-croisé, d'amoureux, en fait, d'ex-épouses et d'amants, menés tambour battant. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez drôle? Tiens.
Ah, j'ai toujours été drôle. Mais ça, je ne le montrerai pas.
Pourquoi?
Parce que, moi, c'est mon père qui me disait ça. Pourquoi tu fais la gueule en chantant? Et je lui dis, papa, si tu fais un contrut, essaye de le faire en souriant. Essayez.
Ben c'est vrai qu'en 50 ans de carrière, vous n'avez pas beaucoup fait rire. C'est pas exactement ce qui vous caractérise.
J'ai fait rire sur scène. C'est-à-dire que je raconte, je me moque de moi sur scène.
Beaucoup?
Oui, je me tourne en dérision, je reprends tout ce qu'on dit de moi. J'en fais des petits passages entre les chansons macho, de droite, machin, tout ce qu'on a pu dire dans ma carrière. Et alors je m'en moque un peu sur scène.
Quelle émotion est-ce que c'est pour vous, le rire, quand vous entendez le rire du public,
par
exemple?
Ah, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le rire, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant.
Vous riez tous les jours, vous?
Oh oui, ça m'arrive.
Et ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Des tas de choses, des conneries, des tas de choses.
Je vous ai entendu dire un jour que cette pièce, N'écoutez pas Mesdames, Michel Sardou, représentait un vrai défi pour vous et que si vous parveniez à la jouer, vous vous sentiriez vraiment comédien.
C'est un peu vrai, parce que là, il y a un texte très très important. L'écriture de Guitry est à la fois est parfaite. C'est un français parfait, il n'y a pas de vulgarité aucune.
Ce serait dommage.
Il n'y a rien, il ne se sert pas il descend jamais en dessous de la ceinture. Mais à côté de ça, c'est très précis. Les inversions, les formules de politesse, toutes ces petites choses qui ont l'air de rien, comme ça qu'il faut se mettre en tête. Et comme il revient sur une idée plusieurs fois dans la pièce, on ne sait pas si on a déjà dit ce qu'on est en train de dire ou pas encore. C'est un peu compliqué.
Moi, j'aimerais que vous nous le fassiez entendre, ce texte, Michel Sardou, ce texte dont vous
je
avez
peux pas
accepté.
Vous faire tout entendre, il y a 1500 lignes.
De nous dire un extrait du premier monologue.
Vous voulez, oui.
Moi, je vous écoute.
Ah bah, attendez, bon vieux, vous me prenez à l'aube, là, comme ça. Alors, c'est l'introduction de la pièce. Ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse. Bien entendu, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez. C'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres peuvent bien se marier autant de fois qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, cela. Et ils n'ont pas vos chapitres, d'ailleurs. Car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement. Je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles, et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour, à ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort, sitôt qu'elles sont loin d'eux, qui se croiraient déshonorées si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent, elles le déshonorent. Etc, etc, etc. Ça dure des pages.
On l'entend, Michel Sardou, les relations hommes-femmes sont au cœur de cette pièce de Sacha Guitry, qui n'est pas le plus féministe des écrivains, ça on peut
c'était
le dire.
C'était une posture.
Ah, chez vous aussi c'est une posture?
Oui, bien sûr.
Mais la libération de la parole des femmes ces 2 dernières années, de quelle oreille est-ce que vous l'avez entendue, vous?
Oh, je suis ravi. Enfin, moi j'ai toujours connu des femmes libres, hein, donc... d'un autre côté, je me méfie un peu de l'importance que tout cela prend. Il suffit qu'on dise un mot un petit peu, pas grivois, mais peut-être un peu, et immédiatement on vous tombe sur la gueule.
Ne me dites pas que c'est plus difficile d'être un homme aujourd'hui qu'il y a
30 ans. Mais bien sûr.
Pourquoi donc?
Ben parce que vous regardez passer une femme, qu'est-ce que vous regardez en premier, vous?
Ah bah moi, pour des raisons qui sont les miennes.
Oui, d'accord, mais allez, mettez-vous à monter.
Je regarde ses yeux.
Montez. Qu'est-ce que vous croyez qu'un homme regarde en premier?
Hein, voilà. Je suis pas menteur, moi.
C'est plus bas que les yeux.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous vous sentez à l'aise dans notre époque, Michel Sardou?
Non.
Parce que j'ai l'impression qu'elle vous déplaît, quand même, par bien des aspects.
Elle me déplaît, oui.
Pourquoi?
Je sais pas. Je trouve qu'on s'amuse moins, je trouve qu'on est moins libre, je trouve que chaque chose est un... Tout est un problème, les gens ont plein de difficultés dans tous les domaines.
Tout est grave.
Voilà. les gens sont un petit peu agressifs. Il y a de l'agressivité, il n'y a que des débats à la télé. J'en ai plein le cul des débats à la télé. Voilà.
Vous savez que c'est un con, je pensais pas être d'accord avec vous sur ce sujet, mais je le suis, je préférais qu'on mette des émissions culturelles, Michel.
Mais oui, qu'on fasse les shows, par exemple, qui avaient à l'époque des spectacles. La télévision, c'était un spectacle à la maison. Il y avait des journalistes, il y avait le journal, le fameux 20h, qui était énorme. Mais il y avait aussi plein d'autres émissions variées. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a 2000 chaînes qui font exactement la même chose.
Et quand on vous dit que vous êtes réac, vous dites quoi ?
Peut-être. Peut-être, mais c'est pas être réac. Prenez toutes les chaînes de télé. Elles se copient. Il y en a un qui fait Starac, l'autre qui fait The Voice, ou Fenêtre de Demain, ou appelez ça ce que vous voulez. Ah, c'est que des radio-crochets. Ouais. J'en ai plein le cul, des radio-crochets.
Même quand on reprend vos chansons,
oui, mais je m'en fous. Pour les entendre chanter faux, je préfère qu'ils ne les prennent pas. Donc je préfère qu'on fasse des émissions de variété des vrais. Où on s'amuse, où il y avait du rire, où il y avait de la chanson, où il y avait de la variété, tout simplement.
Ma dernière question, Michel Sardou.
J'en prie.
Vous avez beaucoup menti dans cet entretien ?
Non.
Puisqu'on a commencé comme ça ?
Non.
Pas une fois ?
Bah non. Ah, mais je me suis même laissé emporter à la fin sur un truc dont je me fous complètement au fond.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que N'écoutez pas mesdames, mise en scène par Nicolas Briançon, avec
très
Nicole
bon
Croisi,
metteur en scène,
avec Lisa Martineau, Carole Richer et Patrick Rénal entre autres. C'est au théâtre de la Michaudière à partir de jeudi prochain. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, or by the mountain. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors.
Yes, sir. All my favorite colors. Right. My sisters and my brothers see them like new.
Black Puma Colors sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M, les médias avec Sonia De Villers.
On est là, Augustin. Salut, à demain.